Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous. Comme vous le voyez, c'est la bonne humeur. On est très heureux de vous retrouver dans le studio de la curiosité.
Non, on essaye de faire la tête. On essaye parfois.
On n'y arrive pas.
Mais tiens, on va se chamailler, tout
on
ça.
On fait des efforts.
Et on n'y arrive pas.
Comment va la Sidonie Bonnec?
Si je vous dis pas bonsoir, par exemple, vous allez peut-être se disputer.
Non, parce qu'on s'est déjà vu avant.
Ben oui, allez, salut.
Allez, le programme.
Les curieux au programme. Plus de 1500 volcans sont actifs sur la Terre. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Quels ont été d'ailleurs, à travers les siècles, les rapports entre les hommes, les femmes et les volcans? Vous allez découvrir que ces volcans peuvent nous terrifier, mais aussi nous nourrir et même nous inspirer.
Et puis à l'occasion, vous l'avez entendu, de la projection à Cannes du nouveau film de et avec Georges Clooney, Money Monster, en partenariat avec RTL. On vous raconte donc le destin de cet acteur, producteur, bon copain, homme engagé et, pardon Sidonie, bon mari aussi désormais.
Oui, bah j'espère que c'est un bon mari. Je vais veiller à tout ça. Allez, tout de suite, on voyage dans le temps pour passer à table.
RTL.
Maïté, quel est le menu du jour?
Moi, je ne me rappelle plus. comment on appelle l'ordre.
La brandade et la morue du Pays Basque.
Et la morue du Pays Basque. Ah, ça y est.
Jusqu'à 22h.
Patron, j'ai baissé le gaz, mais les friands, ils sont noirs comme des charbons.
Oh, excusez-moi, faut que je fasse tout ici.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous voulez que je vous prépare les œufs, que je vous les écaille,
oui,
le temps que vous mettiez vos herbes? Je suis désolée, mais il faut couper parce que les œufs ne sont pas durs, ils sont mous.
Pour les salauds.
Tortellini à la crème et champignons.
Vous n'avez rien compris. On ne peut pas mourir en mangeant.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La grande bouffe, la cultissime Maïté et puis le grand restaurant, voilà qui lance parfaitement cette séquence de la curiosité. Que mangeaient nos ancêtres? C'est la question posée par le magazine Ça m'intéresse en partenariat avec RTL. Bonsoir, Aude-Claire de Parcevaux.
Bonsoir.
Bonsoir.
On est très heureux de vous retrouver. Vous êtes une habituée, une sociétaire de la curiosité et vous êtes donc remontée dans le temps jusqu'à la préhistoire pour savoir ce que mangeaient les premiers hommes. Qu'avez-vous découvert?
Alors que sur un temps très très long, en fait, les hommes se nourrissent essentiellement de racines, de tubercules, de noix, et c'était pas du tout ce que j'imaginais au départ. Je pensais, comme vous peut-être, que c'était plutôt de la viande.
Oui, bien sûr.
Donc pas souvent, ou même presque pas.
Mais on va dire que même jusqu'à il y a 2 millions et demi d'années, en fait, c'est pas beaucoup de viande, c'est juste la viande qu'on trouve, c'est-à-dire le vieux mammouth qui est mort, ou le renne qui a été blessé par un prédateur. À ce moment-là, les hommes vont un petit peu s'occuper des carcasses, mais c'est tout.
Donc si on essaye de les décrire, ils sont opportunistes, en fait, ces premiers hommes.
C'est exactement ça. Ils sont omnivores, ils se nourrissent d'un peu tout ce qu'ils trouvent. Alors ça peut être des racines, ça peut être des végétaux, ça peut être des petits animaux, des escargots, des petits rongeurs, des choses faciles à attraper.
Oui, on n'est pas encore dans le choix vraiment de l'alimentation. L'an dernier, pour la réouverture du Musée de l'Homme à Paris, les chercheurs avaient imaginé un pique-nique préhistorique. Qu'est-ce qu'on pouvait y déguster?
Alors, on pouvait y déguster des aliments pas tout à fait préhistoriques, mais ce qu'ils appellent préhisto-compatibles, c'est-à-dire des aliments d'aujourd'hui qu'on pense qu'on pouvait trouver à l'époque,
d'accord,
bien qu'ils étaient forcément très différents, puisque tous les végétaux, tous les animaux ont bien sûr évolué. Alors, il y avait de la soupe d'ortie à l'anguille fumée. Il y avait de l'épeautre, des dattes, des noix qui accompagnaient de la viande de bœuf, et puis en dessert, des feuilles de menthe et des fleurs de pâquerette.
C'est précis, ça avait l'air bon, non?
Alors c'était très
bon.
Vous
avez déjà mangé des fleurs de pâquerette pour dire ça?
Ah, vous savez, parfois quand on est un peu fatigué,
c'est ça.
Ça peut arriver.
Voilà. Ça se fume pas non plus. Hein.
C'est vrai, il paraît. Ah bon. Évidemment, on n'a pas de recette de l'époque. Comment on savait que ces hommes préhistoriques étaient herbivores, que les tout premiers hommes étaient herbivores?
Alors en fait, pour reconstituer les menus, on a plusieurs sources. On a d'abord l'archéologie, donc les os et surtout les dents. Et sur les dents, en fait, en fonction du régime alimentaire, l'usure des dents est différente. Si vous êtes végétarien, les hommes qui étaient végétariens avaient des stries horizontales très prononcées. S'ils étaient carnivores, elles étaient plutôt verticales. Et quand ils étaient omnivores, elles étaient obliques. Pourquoi? Parce qu'en fait, mastiquer les végétaux, c'était une tâche très compliquée. Ils devaient les mastiquer très longtemps pour qu'ils soient comestibles. D'où ces traces, en fait, sur les dents.
Et alors, du coup, de temps en temps, ils trouvaient le travail déjà fait quand les végétaux étaient mastiqués?
Alors, exactement, ils se nourrissaient en fait de ce qu'ils trouvaient, le contenu de l'estomac des animaux morts qu'ils trouvaient. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des charognards. Mais pour avoir des végétaux à des époques où il y avait une époque très glaciaire, enfin où il y avait un très grand froid, leur seule solution, c'était de se nourrir en fait des éléments végétaux déjà digérés par les animaux qu'ils trouvaient morts.
Alors pardon si vous nous écoutez, alors vous êtes en train de préparer le repas ou alors que vous êtes à table, c'est sûr que c'est pas très ragoûtant. On s'imagine
on
fourager dans le dans l'estomac d'un mammouth, remarquez, il doit y avoir de la matière là-dedans. Il y a de quoi nourrir toute une famille. Alors, si Denis était à la cantine, d'ailleurs j'y étais aussi tout
comme
à l'heure,
tous les soirs,
et
en fait,
moi j'ai pas choisi les brochettes de
c'était mammouth.
C'était quoi comme viande?
Je sais pas.
Vous avez un doute.
C'était un peu dur.
Alors, elles étaient cuites, ces brochettes. Est-ce que ça, c'est préhistorique?
Alors, c'est préhistorique à partir de 500 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 500 000 ans, on commence à trouver les premières traces d'aliments cuits, enfin de feux de cuisson, et on sait que l'homme préhistorique commence à cuire ses aliments. Alors ça, c'est formidable. C'est la vraie révolution, en fait, pour les repas, puisque non seulement il va pouvoir cuire la viande, ça nous semble très important, mais surtout, il va pouvoir cuire les végétaux et du coup, dégager beaucoup de vitamines et beaucoup de nutriments, en fait, qu'il n'avait pas quand ces aliments étaient crus.
Donc, ils prennent de l'énergie en plus des aliments en question, c'est ça?
Exactement. Ils prennent de l'énergie, ils prennent des vitamines, ils prennent plein de choses.
Est-ce qu'on sait si ces hommes préhistoriques mangeaient suffisamment?
Alors, leur faim. Absolument. On estime en fait qu'ils avaient même une ration alimentaire qui était énorme, puisqu'on l'estime entre 3000 et 5000 calories contre à peu près 2000 aujourd'hui. Hein.
Oui, mais ils étaient beaucoup plus actifs que nous.
Alors, exactement. En fait, le truc, c'est qu'ils avaient des dépenses énergétiques énormes, non seulement parce qu'il faisait très très froid, et ensuite parce qu'ils avaient des conditions de vie qui leur demandaient énormément d'activité physique.
Alors, dans votre Ça m'intéresse, j'ai découvert que ces hommes préhistoriques cassaient les os des animaux qu'ils chassaient. Pourquoi faire? Pour faire des démonstrations de force?
Alors, il y a deux raisons. La première, on pense qu'ils aimaient le goût de la moelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait partie des friandises paléolitiques. C'est l'os à moelle. Et puis surtout, en fait, une raison de nutrition, ça leur apporte des lipides. Et donc, ça leur permet d'avoir un régime alimentaire un peu plus équilibré que la seule viande.
On n'a pas retrouvé la fleur de sel qui allait avec, par hasard?
Je ne crois pas.
Et le bon pain grillé. D'un mot, ce régime paléo, parce que c'est comme ça qu'on le surnomme, vous l'avez fait examiner en quelque sorte par le chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est équilibré ou pas, ça?
Alors, lui, il n'est pas très favorable. C'est-à-dire qu'il dit que c'est un régime qui a été très à la mode. C'est un régime qui suppose qu'en fait, l'homme se nourrissait très bien jusqu'à l'invention de l'agriculture. Donc, en fait, il faut enlever de son régime alimentaire tout ce qui est céréales ou bien laitage, puisque ce sont des aliments qui arrive beaucoup plus tard à l'échelle de l'humanité, et donc privilégier uniquement la viande.
Mais ça, c'est pas très équilibré. Le lait, justement, et le pain, si notre histoire, écoutez bien, était condensée en une seule année, eh bien, ce lait, ce pain, ils apparaîtraient le 30 décembre. On vous le raconte.
C'est dans longtemps?
Oui, c'est dans longtemps. On vous le raconte tout de suite sur RTL.
RTL.
J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà.
Je m'en fous, parlez-en au chef.
Je m'en fous du chef.
C'est Monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil.
Dans le mimosa, du persil et des oignons. Jamais d'estragon, vraiment c'est pas bon.
Mais c'est ce que je lui disais.
Oh non, il disait de l'estragon.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors, oignon,
boutarde,
sel,
fines herbes,
non pas de beurre.
Quand un petit peu de céleri, ça pourrait peut-être...
Écoutez, ne jouez pas avec mes nerfs.
Partez cuisson, mon adjudant. Vous l'avez pas loupé, hein?
Côté moutarde, vous avez mis le paquet, hein?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans la curiosité, on s'invite au grand restaurant de la préhistoire avec Aude-Claire de Parcevaux, journaliste au magazine Ça m'intéresse, qui publie une série d'articles sur ce que mangent les hommes depuis la préhistoire. C'est en partenariat avec RTL. Aude-Claire, Thomas nous se demandait, mais ce pain qu'on adore manger et qu'on mange à toutes les sauces, on le mange depuis quand?
Alors depuis à peu près, depuis l'an 8, moins 8000, moins 7000. Ça dépend un petit peu des régions, mais enfin c'est au Moyen-Orient que ça commence.
Ouais.
Et en fait, pour faire ce pain, il y en a un petit problème au départ, c'est qu'il faut avoir des céréales. Pour avoir ces céréales, il faut les cultiver. Donc en fait, le pain n'apparaît qu'avec l'agriculture.
Et là, sédentarisation?
Absolument.
Ouais.
Alors, elle se fait progressivement, bien sûr. Mais c'est-à-dire, c'est vraiment à la fin de la préhistoire et c'est le tout début de l'Antiquité qui voit apparaître le pain et le lait, puisque le lait vient aussi de l'élevage. C'est-à-dire que c'est au moment où on domestique des animaux, le bœuf, la chèvre, le mouton, le sanglier qui va devenir le porc. Et c'est à ce moment-là que l'homme peut avoir du lait à sa disposition.
C'est fou parce que moi, j'ai toujours imaginé que c'était le lait presque la première alimentation en dehors du lait maternel, bien sûr.
100% d'accord. C'est l'une des découvertes les plus importante de votre dossier pour moi. Je suis tombé de la chaise.
Non seulement l'homme ne boit pas de lait, mais en plus, il ne le supporte pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas l'enzyme qui lui permet de le digérer. Donc l'homme préhistorique, il va faire du lait caillé, c'est-à-dire des fromages, en fait, pour pouvoir le manger et le digérer.
Donc le pain et le lait, dans l'histoire de l'humanité, c'est très, très, très,
très
tardif.
Récent. C'est moins 8000 sur 3 millions d'années environ.
Alors, on est le marqueur du début de l'Antiquité, c'est quand c'est à peu près
c'est
à ce moment-là.
C'est à peu près ça, justement. D'accord. C'est le début de l'agriculture. C'est le début de l'agriculture. Oui.
D'accord. Alors, vous proposez, ça m'intéresse, un certain nombre de recettes de cuisine liées à plusieurs civilisations de l'Antiquité. Les premières recettes, elles datent, d'après ce que je lis, de 3500 ans avant notre ère. Alors, où est-ce qu'on est invité, là, et qu'est-ce qu'on va déguster ?
Alors, les premières recettes, en fait, on les a trouvées en Mésopotamie. Mmh. Alors, c'est la base du régime méditerranéen. Dans tous les régimes de l'Antiquité, on va trouver des céréales, on va trouver de l'huile et on va trouver du vin. Après, il y a des petites variantes en fonction de la zone géographique et puis de la période de l'Antiquité.
Est-ce qu'on pratiquait déjà la fermentation à ce moment-là ? Parce que c'est l'un des moyens les plus utilisés à l'époque.
Alors, la fermentation, en fait, on sait que c'est une pratique très ancienne, ouais. Notamment parce que ça permet de conserver les aliments. Fermenter, c'est en fait, on met les aliments, on met du sel et on les laisse se agir comme ça, se transformer pour durer. Alors, les premières fermentations, c'est de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les animaux qui digéraient en fait des herbes produisaient une petite choucroute naturelle que l'homme préhistorique dégustait.
Mais dans l'estomac de l'animal.
Dans l'estomac de l'animal.
Mais pour ceux qui nous rejoignent.
Mais effectivement, c'est à l'Antiquité, on fermente les aliments.
Mais ce régime est en train de revenir, parce que je viens de m'acheter un livre de cuisine où justement on propose des recettes avec des carottes fermentées, des légumes fermentés.
Et des brochettes bien cuites, c'est ça.
Non, mais qu'on en fait pendant un mois et apparemment, c'est meilleur, c'est plus facile à digérer, meilleur pour les intestins.
D'ailleurs, si vous voulez voir la photo de Sidonie Monet qui croque dans sa brochette, elle est sur rtl.fr.
Tiens, on va comparer les régimes alimentaires qui régnaient autour de la Méditerranée. En Égypte, c'est particulièrement équilibré comme régime. Pourquoi ?
Alors, parce qu'en Égypte, on a beaucoup de céréales, en fait. On a pu retrouver, en fait, les menus égyptiens parce que les Égyptiens avaient très peur de mourir de faim. Donc, quand ils enterrer leur mort, ils leur laissaient de la nourriture et donc c'est en analysant cette nourriture qu'on a réussi à décrypter les menus.
Ils avaient peur de mourir de faim après leur mort.
Absolument, le temps du voyage de l'âme, absolument,
bah oui, bien sûr.
Alors qu'est-ce qu'ils aimaient manger ?
On a trouvé par exemple une femme qui était enterrée avec une bouillie de céréales, des petits pains d'orge, du fromage, un poisson cuit et deux rognons de mouton.
Très bon.
Bah ouais, voilà. C'est pas mal, ça
parfait,
me plaît bien.
C'est de l'autre côté.
Est-ce qu'ils mangeaient des desserts, les Égyptiens de l'Antiquité ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de desserts, mais on peut parler d'aliments sucrés. Par exemple, on a vu de la purée de la marmelade de dattes et de miel. Beaucoup de miel. En fait, le sucre est absent, bien sûr, il n'existe pas encore, mais il y a du miel dans de nombreux aliments.
Et de l'alcool ?
Et de l'alcool. Les Égyptiens sont de grands amateurs de bière, qui visiblement est très chargée en alcool, d'ailleurs.
Donc c'est aussi ancien que ça, la bière on en consomme depuis
très longtemps.
C'est la fermentation,
c'est les premières fermentations.
Il y a une autre civilisation de l'Antiquité qui vous a passionné, Haute-Claire de Parcevaux, c'est Rome. On en parlait d'ailleurs il y a quelques jours, l'élite pratiquait des orgies sexuelles aussi, mais alimentaires. On aimait les excès, on aimait beaucoup manger.
Alors oui, c'est très intéressant parce qu'à Rome, il y a une cuisine très sophistiquée. Et en plus, on en a la trace parce qu'il y a un roman qui s'appelle Apicius qui a laissé son livre de recettes. Mmh. Et ce monsieur n'était autre que le cuisinier de l'empereur Tibère. Autant vous dire qu'il avait une cuisine très sophistiquée, très riche. Et donc, grâce à lui, on a vraiment des plats romains tels qu'ils étaient.
Avec quoi, par exemple ?
Alors, les Romains adorent le bouilli. Tout ce qui est mou, tout ce qui est mijoté.
Il n'y avait pas dedans ou...
Je pense qu'ils trouvent ça beaucoup plus savoureux quand... Ah. La viande est bien cuite et surtout quand elle a des sauces. Ils adorent les plats en sauce et ils adorent les plats en sauce avec des saveurs sucrées, salées. Et notamment, ils ont une sauce qui ressemble beaucoup au gnoc mam, qui est à base de poisson fermenté, encore la fermentation. Mm-hmm. Et donc, ça fait partie de leur grand délice.
Il y a aussi des pieds de chameau, des langues de flamant rose ou des crêtes d'oiseaux. C'était quand même assez original, les menus de
la cantine d'Apicius,
la cantine préhistorique. On continue notre voyage dans le temps si on jouait un peu.
Oui. À quoi ?
À vrai ou faux ?
Allez, allons-y.
Allez, c'est parti, c'est dans une minute, restez avec
maintenant.
Nous.
Merci Denis Bonnec,
Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Que mangeaient nos ancêtres ? C'est la question que se posent nos confrères du magazine Ça m'intéresse. Ils publient dans leur numéro du mois de mai un dossier sur ce thème en partenariat avec RTL. Haute-Claire de Parcevaux, vous avez supervisé ce dossier. On va jouer au vrai ou faux ? D'accord. Allez, c'est parti pour évoquer le Moyen-Âge. Première affirmation, on mettait des épices pour cacher la viande avariée.
Alors ça, c'est complètement faux.
Ah bon ?
Je suis désolée de vous dire. En fait, les épices coûtent très cher. Et donc, en fait, effectivement, on en met énormément. mais on en met pour deux raisons. D'abord, pour en mettre plein la vue aux autres, c'est-à-dire que c'est vraiment un signe extérieur de richesse. Et d'autre part, parce que en fait, c'est une croyance qui est un peu héritée d'Hippocrate et de l'Antiquité, des Grecs dont on n'a pas parlé. Mais en fait, eux estiment que certains aliments sont chauds, d'autres sont froids. Et les épices sont des aliments chauds qui réchauffent des aliments froids, comme le poisson, par exemple. Alors, au départ, on le fait pour avoir...
D'accord, il y a une idée, évidemment fausse, là, pour le coup, d'un équilibre à trouver entre les aliments, c'est ça ?
Exactement.
Entre les chauds
et froids ? C'est une sorte de correspondance, en fait, une correspondance symbolique. Donc, au départ, on les utilise pour ça. Et puis, comme justement, ça coûte cher, et donc, en fait, c'est très chic de mettre des épices, on en met progressivement partout et de plus en plus.
On continue de jouer à ce vrai ou faux. Au Moyen-Âge, on aimait les goûts acides. Vrai ou faux ?
Alors ça, c'est vrai. Ouais. On adore les goûts acides et ça, on le sait parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Taillevent qui, au XIVe siècle, a laissé un célèbre recueil de recettes de cuisine qui s'appelle le viandier. Et à peu près les deux tiers de ces recettes comportent soit du vin, soit du vinaigre, soit du, ce qu'on appelle du verjus, c'est-à-dire du jus de raisin vert.
Alors il y a aussi la recette du blanc broué de chapon. On y trouve quoi ?
Oui, alors ça, c'est un historien belge qui a ouvert un restaurant et où on peut déguster des plats accommodés à l'ancienne. Ouais. Absolument, à partir de recettes anciennes. Alors, ce
enfin,
sont...
les produits sont frais, mais les plats d'époque...
les plats se rapprochent vraiment. Oui. C'est donc à Liège, en fait, son restaurant. Hein. Et alors, c'est, on y trouve des morceaux de chapon qui mijotent dans une sauce qui est liée aux œufs, où il y a aussi de l'amande en poudre et du foie de volaille, et qui est mouillée avec du bouillon, du vinaigre, du gingembre, des clous de girofle, du galanga qui est une sorte de gingembre aussi, de la maniguette qui est aussi une sorte de poivre, enfin beaucoup d'épices.
Alors un autre vrai ou faux sur l'alimentation de nos ancêtres au Moyen-Âge, ils mangeaient les fruits en entrée.
Alors vous avez raison, en fait c'est vrai pour certains fruits. Alors là encore c'est des fruits qui sont considérés comme froids, c'est-à-dire qu'ils doivent cuire avec la digestion. Alors c'est par exemple le cas des abricots, des cerises, des prunes, des pêches, un peu les fruits d'été. Et à l'inverse, on sert en dessert les amandes, les noisettes, les coins, les pignons.
Du fruit sec, plutôt.
Plutôt fruits secs.
Pas seulement, mais.
Mais qu'on considère comme déjà cuits, en fait.
Est-ce qu'il y avait une séparation assez nette entre le salé et le sucré ?
Alors, pas du tout. En fait, cette séparation, en fait, on mélange énormément le salé et le sucré jusqu'au XVIIe siècle, à peu près. C'est là qu'apparaît vraiment le début d'une séparation avec des plats salés et puis des desserts sucrés.
Alors, autre idée reçue à chasser grâce à votre magazine Ça m'intéresse. Idée reçue sur les moines. Les moines s'empiffraient au Moyen-Âge. Est-ce vrai ?
Alors, c'est faux. Et en fait, c'est vrai pour les abbés. C'est-à-dire que les abbés sont des grands seigneurs. Et comme tous les grands seigneurs, c'est vraiment l'excès à la table. Par exemple, on sait qu'à l'abbaye de Cluny, on sert de l'ours, on sert du chevreuil, on sert du cerf, des tourterelles. Enfin, c'est incroyable. En revanche, le quotidien du moine est beaucoup plus frugal. Et c'est essentiellement du pain. Des légumes en potage, des œufs, des laitages et du poisson.
Il y a des animaux aujourd'hui qu'on n'imaginerait évidemment pas à croquer, mais au Moyen-Âge, apparemment, ça posait pas problème, on peut le comprendre. Le cygne, par exemple, on pouvait déguster un cygne.
Oui, parce que le cygne, c'est très chic. Au Moyen-Âge, tout ce qui est près du ciel est un bel animal ou un beau mets. Tout ce qui est sur le sol, voire une racine, est décrié. Donc, par exemple, on consomme pas du tout, à la table des seigneurs, on consomme pas du tout de tubercules qui sont dans le sol. Mais en revanche, effectivement, du cygne. Et puis, alors, on va faire des cygnes reconstitués avec de la poudre d'or dessus. Enfin, on privilégie aussi le spectaculaire sur les tables.
Ça, c'est la recette du cuisinier Taillevent, que vous citez dans l'article. Et à la table des puissants, il faut être extravagant. Qu'est-ce qu'ils mangent qui nous paraît très complètement dingue aujourd'hui.
Si je vous dis de la langue ou du lard de baleine, par exemple, du phoque, du dauphin, et puis du gibier, beaucoup de gibier en fait.
Alors si on continue de chasser les idées reçues, moi quand je pense à Henri IV, j'ai très vite le mot poule au pot qui me vient en tête. Je ne sais pas où j'ai appris ça, mais que Henri IV avait démocratisé en quelque sorte la poule au pot. C'est vrai, c'est pas vrai ?
Oui, alors ça fait partie des jolies légendes de l'histoire de France, la poule au pot. Mmh. Alors il aurait dit que si Dieu lui prêtait le vie, il aimerait que chaque laboureur ait une poule à mettre dans son pot. la réalité du quotidien du laboureur, c'est quand même du pain. Et beaucoup de pain. 70% de l'alimentation du laboureur, c'est du pain et du vin un petit peu coupé d'eau.
Et rarement de la poule, quoi.
Et très rarement de la viande, voire jamais.
Ouais. Et en revanche, est-ce que dans la cour des rois, à la cour des rois de France, on se goinfrait de chocolat ?
Alors ça, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus tardif, en fait. Hein. C'est après la découverte de l'Amérique et c'est une mode qui vient de la cour d'Espagne, en fait.
Merci beaucoup, Haute-Claire de Parcevaux.
C'était
encore
délicieux.
Plein, mais c'était délicieux. Il y a encore plein d'autres questions comme ça. Oui, je pense qu'elle est mieux réussie.
Elle
suivante.
Était cuite, c'est sûr.
Alors, pour en savoir plus, on conseille évidemment la lecture de Ça m'intéresse, ce dossier sur l'alimentation de nos ancêtres et réalisé en partenariat avec RTL.
Et tout de suite, des volcans et des hommes.